Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à cette émission d'après-course du Grand Prix de Bahreïn, le premier de 23 émissions d'après-course. Alors, on commence la saison en force et j'accueille avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André.
Salut Abdou, comment vas-tu?
Écoute, ça va super bien. C'est une magnifique journée de sport.
Effectivement, il paraît qu'il y a une certaine équipe qui a gagné 7-0 en plus.
ouais. Alors, on va revenir sur le Grand Prix de Bahreïn, qui était la première course de cette saison de Formule 1. Alors, je vais vous donner le résultat du premier Grand Prix de la saison. Alors, sans surprise, on pourra dire... Max Verstappen a remporté la course devant Sergio Perez, inscrivant un doublé. Fernando Alonso, à son premier Grand Prix chez Aston Martin, monte sur le podium avec une troisième place. Carlos Sainz est quatrième. Lewis Hamilton, cinquième. Lance Stroll, sur l'autre Aston Martin, sixième. George Russell, septième. Huitième, Valtteri Bottas sur la Alfa Romeo. 9e, Pierre Gasly. 10e, Alex Albon, qui marque un point pour Williams. Ensuite, on a perdu Oscar Piastri, Charles Leclerc et Esteban Ocon. Donc, on vous a donné le top 10, ainsi que les pilotes qui n'ont pas complété l'épreuve. Marc-André, on retourne avec nos classiques. Performance du jour, contre-performance du jour et moment cocasse. Je pense qu'on peut tout de suite donner notre performance du jour.
Unanime à Fernando Alonso. Quelle course de sa part. Il a profité évidemment, bien sûr, de l'abandon de Leclerc pour se dénicher une place sur le podium. Lui qui était à 2 secondes de Carlos Sainz et qui ne faisait que ralentir le rythme entre les deux pour se dénicher justement une place sur le podium. Mais quelle course de sa part! Il est parti vraiment avec les couteaux entre les dents. Il voulait absolument bien réussir ce premier Grand Prix et ça paraissait. Et le résultat est qu'il a fait une course sensationnelle là, dans cette nouvelle voiture qui lui fait très bien. D'ailleurs, lui-même disait pendant la course à ses ingénieurs, « Merci, vous avez fait une belle voiture. J'ai du plaisir en la conduisant avant même de tomber sur le podium. »
Ah oui, clairement. Écoute, on reparlera de Fernando Alonso, mais il semble vraiment adorer la Aston Martin jusqu'à présent. Est-ce que tu as une contre-performance?
Ben, écoute, on pourrait aller... C'est un peu en deux temps. On pourrait aller vers Ocon qui partait assez haut, assez bas dans... Il avait réussi une bonne qualification quand même avec cette voiture et puis qui n'a tout simplement pas réussi. Il a pogné 2 pénalités. L'un pour s'être mal positionné sur la piste, l'autre pour n'avoir pas bien... exécuter la pénalité durant la course. Donc, c'est vraiment des pénalités qui sont facilement évitables et c'est seulement une question de concentration de la part autant du pilote que de l'équipe parce que les deux sont en cause dans les 2 pénalités. Donc, écoute, Ocon, ça a été très difficile. De l'autre côté, son coéquipier qui partait 20e, Pierre Gasly, a sorti une de ses courses en terminant 9e et en parvenant à obtenir des points importants pour Alpine, alors qu'on se disait que ça allait être une course lamentable pour Pierre Gasly en ce dimanche.
Et as-tu un moment cocasse?
Non, j'en ai pas relevé. Je sais pas toi si t'en as un.
Ben, vois-tu, moi, le moment cocasse, je vais le remplacer pour reprendre un terme de mes amis au Cannes Football Club. C'est pas une référence soccer, c'est juste une blague. un gelard de foin. En fait, Esteban Ocon, mm-hmm. c'est un gelard de foin solide, justement, pour mm-hmm. les pénalités dont tu as mentionné, Ocon et Alpine. Parce qu'en même temps, ils ont réparé, ils ont changé le museau parce que... on n'a pas vu la reprise. Hein. Je ne sais pas si on a vu la reprise, mais y aurait eu possiblement contact entre... avec Ocon et une autre voiture parce que le bout de l'aileron avant était vraiment
abîmé,
ouais. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a vraiment été compliqué. Là.
Ouais, une journée compliquée pour le pilote français, lui qui voulait sûrement bien faire devant Pierre Gasly. Malheureusement, tout est tombé à plat pour lui. Là.
Sinon, ma contre-performance, je donnerai à Ocon, mais je vais donner aussi à... Je vais plutôt mettre McLaren parce que ça a été un Grand Prix horrible. Piastri, le pauvre, a été forcé à l'abandon sur un problème mécanique, surtout qu'ils ont changé le volant. Et Lando Norris, qui était en début de course, qui se battait pour la 10e place, mais ensuite qui a reculé. C'était à prévoir, mais ça n'a pas été glorieux, si je pourrais dire. Puis je mettrais même Hans, mais c'était quelque chose de prévisible.
Mm-hmm. Oui, je suis complètement d'accord avec toi.
Donc, c'est dommage pour... c'est vraiment dommage pour cette équipe qui faisait bien dans les circonstances avec Hülkenberg 10e. On s'y attendait au moins pour le race pace. Et la performance du jour, je pense que je vais pas aller dans une autre direction. Ça va être Fernando Alonso, point final. Marc-André, avant de parler d'Alonso, il faut qu'on parle de Red Bull. Max Verstappen a été complètement... Non, il n'a jamais été inquiété, en fait. Et Sergio Perez, malgré un mauvais départ, s'est bien repris. Son dépassement sur Charles Leclerc qui a, excusez-moi le terme, dormi sa switch sur sa défense, a quand même bien fait. Hein. Les Red Bull n'ont jamais été inquiétés.
Est-ce qu'on pourrait même dire que Red Bull cachait un peu de performance en qualification? Peut-être. J'ai très hâte de voir dans les prochaines courses si le race pace va rester parce que, écoute, Verstappen volait littéralement sur la piste. Le seul moment où il a été un petit peu inquiété, c'est sur la première attaque de Charles Leclerc dès le premier virage, il est venu l'accoter vers l'extérieur, mais il n'a pas réussi à aller plus loin dans sa démarche. Et après ça, Verstappen est parti une balade dans le parc. Choisissez votre parc que vous voulez. Là. Ça n'a pas été compliqué pour lui. Il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Il a été rapide, même si à un moment donné, je pense qu'il était quoi à 15 secondes de Leclerc. Il est resté concentré. Tu le vois qu'il est en pleine confiance de ses moyens. Aucune erreur non plus dans les puits du côté de Red Bull, ce qui aurait pu compliquer les choses autant pour Verstappen que pour Perez. Même pour Perez, ça a été très utile parce qu'ils ont réussi un temps de 2,3 secondes et ça l'a aidé dans sa poursuite vers l'objectif d'aller chercher Charles Leclerc avant qu'il l'abandonne. Donc, ça a été un travail impeccable de Red Bull. Je pense qu'ils doivent être rassurés aussi parce que bon, ça fait 2 ans que tu gagnes, tu as de la pression de reproduire ça. Tu sais que tu as une bonne voiture, mais en même temps, tu sais pas exactement ce que les autres ont. Donc, d'avoir une performance comme ça à Bahreïn, un doublé sur le podium 1 et 2 et ramasser tous les points disponibles, disons que ça donne bon augure pour la saison pour eux et ils doivent être très contents ce soir-là.
Ah oui, clairement. Écoute, j'ai l'impression que on n'avait aucun doute que Red Bull allait être dominant dès le premier Grand Prix et ça s'est confirmé. Je pense Verstappen a été devant, il n'a jamais été inquiété. Ils ont vraiment fait le travail. Alors, tandis que Perez, comme j'ai mentionné, oui, son départ était n'était pas bon, mais il a été capable, de, surtout sur son relais avec le pneu tendre, son deuxième train de pneu tendre, devrais-je dire, il a été capable de pousser à fond et de battre et de dépasser Charles Leclerc qui ne l'a juste jamais venu venir au final.
Exactement. Ça a été un peu un dépassement surprise pour Charles Leclerc. Il ne s'attendait pas à ce que Perez soit là. Je pense que ça aussi, c'est peut-être une erreur de l'écurie de ne pas lui avoir dit que. Il a eu l'air vraiment surpris de voir que Perez était déjà là. Donc, à suivre pour voir s'il n'y a pas eu un manque de communication ou n'importe quoi d'autre. Mais Perez peut se dire content de la performance. C'est à peu près la position qu'il va avoir cette année. Là. Il pourra pas nécessairement aller chercher la première position de manière récurrente. Donc, il va devoir s'habituer, je crois, à cette deuxième position-là.
Ouais, effectivement. Et surtout que vraiment, Perez, lui aussi, a fait son travail. Alors, c'est bon de voir c'est bon de voir Red Bull encore au sommet. Alors, c'est à voir, mais c'est juste le premier Grand Prix. Maintenant,
exact.
Ça va être de répéter la même chose dans deux semaines en Arabie Saoudite. Et ensuite, dans un mois en Australie, et ainsi de suite. Alors,
tout recommence à chaque fin de semaine. Fait que c'est le cycle.
Exact. Mais je ne suis pas inquiet pour Red Bull jusqu'à présent. Mais on va parler de la vraie vedette de ce Grand Prix de Bahreïn. Et c'est Lance Stroll. Non, je niaise, on va parler de Fernando Alonso. Mais pour vrai, écoute, on va parler d'Aston Martin. Quelle... Enfin, la hype, elle est confirmée. Elle est confirmée.
Oh oui.
Donc, Alonso sur le podium, et il ne l'a pas démérité, là. Il a travaillé pour le faire. Et Lance Stroll qui finit sixième devant une... Et Lance Stroll qui finit devant, en plus, une Mercedes, ce n'est pas rien du tout, là. Alonso, son dépassement sur Lewis Hamilton, c'était absolument sensationnel. Pas le premier, le deuxième. Je pense que c'était au virage 9-10. C'était absolument sensationnel. C'est exactement ce qu'on a vu de Fernando Alonso. Et je pense, je l'ai dit aussi dans mon Twitter Space que j'ai fait samedi après les qualifications. Quand Fernando Alonso est confiant, est très confiant et que la voiture, elle est très bonne, c'est un Fernando Alonso qui est dangereux à affronter parce que il est capable du meilleur et seulement que du meilleur. Et oubliez l'âge. Fernando Alonso est tout simplement un excellent
Mark
pilote.
And Dre Fordham joined.
Alors, vraiment, Alonso a été sensationnel. Son dépassement sur Carlos Sainz aussi, remarquable. Et d'autant plus que, tu sais, c'est quand même une voiture qui avait un bon rythme de course.
Quelle course, hein? On s'attendait à ce que le double champion du monde réussisse une performance comme ça. Moi, j'avais écrit à mon ami que je m'attendais à ce qu'Alonso réussisse un podium. Ça a été, comme j'ai dit tantôt, par un abandon de Charles Leclerc, mais quelle performance! Il a été sensationnel avec cette voiture. Quand on voit Alonso comme ça, je pense que c'est probablement il est probablement dans ses meilleurs moments depuis plusieurs années et il y a une seule course de fait. Je pense que si l'année se terminait maintenant, on pourrait dire mission accomplie, autant que je pense que dans 22 courses, si la saison s'est passée coup-ci, coup-ça, je pense qu'on va pouvoir dire que quand même, Fernando Alonso va avoir sorti grandi de cette année. Donc, quelle voiture, quelle course, Lance Stroll qui a aussi réussi à bien tenir le coup, a terminé sixième. Aston Martin va bien. J'ai hâte de voir si ça va continuer ainsi. Par contre, leur rythme de course est vraiment extraordinaire. Dès les premiers coups de volant, on a pu comprendre là, que cette voiture pouvait avoir une chance d'être sur le podium. Et visiblement, on avait raison parce que ça a été une course exceptionnelle pour lui.
Ah oui, vraiment. Écoute, puis je l'ai dit aussi quand pendant que tu essayais de te reconnecter. Alonso, très confiant, puis je l'ai dit aussi hier dans le Twitter Space. Alonso, super confiant dans une voiture excellente. C'est un cocktail dangereux pour les adversaires.
Vraiment. Puis Aston Martin sont deuxième au classement présentement.
Exact.
Puis ce n'est qu'un début, là, on s'entend. Là, on va pas partir en peur, puis on va pas. Mais quand même, ça reste qu'ils sont légitimement deuxième en ce moment. Puis avec Alonso qui est aussi confiant, cette voiture qui peut aussi rouler, si la fiabilité est au rendez-vous, pour de vrai, je pense qu'Aston Martin peut très bien penser pouvoir réussir à obtenir cette deuxième position puis y rester jusqu'à la fin de la saison. Et obtenir des podiums de manière récurrente. Il va falloir que Lance Stroll mette sa pierre à l'édifice, on s'entend tous. Mais quand même, je pense que le succès d'Aston Martin pour l'instant ne vient pas de nulle part. Alonso, on peut dire n'importe quoi, il a bien vu, probablement que sa visite chez Aston Martin l'a encouragé parce que malgré les problèmes chez Alpine, il a quand même décidé de prendre le pari. Puis visiblement, ça n'a pas été un pari si risqué que ça parce que cette voiture est très forte.
Et d'ailleurs, on parle d'Alonso, j'en profite pour accueillir notre experte en Fernando Alonso, Anna Maria Mercado Lopez. Salut Anna Maria.
Salut.
Comment vas-tu?
Ah, mais je pense que ça va très bien. Hein? Je ne peux pas me plaindre aujourd'hui.
Oui. Ben écoute, maintenant qu'on parle d'Alonso, globalement, comment as-tu trouvé la performance de l'Espagnol? Est-ce qu'elle était bonne? Est-ce qu'elle était mauvaise? Est-ce qu'elle était aux poubelles? Non, Agnès.
Non, mais en général, la performance d'Alonso était très bonne. On sait que lui, s'il y a les bonnes ressources, les bonnes autos pour performer, lui est capable. Il l'a fait. Il était malchanceux pendant des années. Il tombait toujours sur la mauvaise voiture. Et ça là que cette année, personne n'y croyait. Parce que même moi, je disais, lui, il devrait aller chez Aston Martin. Et le monde me disait, mais t'es folle. T'es folle avec ça. Mais ça là que ça marche, que Aston Martin, il prend ça au sérieux. Mais au bout, globalement, la performance de lui comme pilote, on voit qu'il s'est préparé, lui entraîne beaucoup, fait qu'il était prêt mentalement pour ça, il arrive, il trouve que la voiture aussi était bonne, fait qu'on a les bons éléments pour que ça marche, et ça marchait. On sait pas combien ça va durer, mais pour le moment, il faut profiter tant que ça arrive. Et je dis que la voiture aussi était bonne parce qu'on voit que Lance Stroll, même s'il avait des problèmes de santé, il s'avait fait quelques fractures, on a vu que lui aussi était confortable avec la voiture. Fait que je pense que j'ai rien à dire aujourd'hui de mauvais avec de Alonso, rien.
Mais tiens, parlant de Lance Stroll, sixième.
Remarquable.
Remarquable dans les circonstances. Quand même, parce qu'il faut rappeler, bon, évidemment, il y a eu son accident de vélo, double fracture au poignet, a été opéré. Ensuite, on apprend qu'il a eu un orteil cassé, mais a réussi à se qualifier huitième. Et pour finir sixième, en plus de terminer devant la Mercedes de George Russell. Alors, vraiment, Stroll, dans les circonstances, a fait un superbe Grand Prix, malgré la douleur.
Oui, c'est totalement. Lui, et même s'il y avait des difficultés, le monde disait qu'il fallait que lui n'était pas assez à 100% pour conduire, mais quand même, il a fait une belle performance, surtout que quelque chose que c'était un handicap depuis toujours pour Stroll, c'était la qualification.
Ouais.
Il a fait quand même une bonne qualification. Il s'est classé 8 dans la grille, même s'il n'avait pas fait des essais hivernaux, il n'avait pas touché la voiture avant le vendredi des premiers essais.
Exact. Et en plus, la stratégie en course de revenir, ben, il est revenu quand même derrière Russell, mais a été capable de le dépasser et de ne plus jamais être inquiété. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on aurait vu de Stroll, mais il a été calme. Il a fait une ou deux erreurs, dont ouais. La première où il a presque yeeté Fernando Alonso après 4 virages. Et je suis encore surpris que la voiture n'ait pas eu de dommages considérables, surtout avec la vitesse où Stroll a freiné. Et l'autre, c'est quand il est sorti de piste, mais sans aucun problème. Donc, Stroll, en général, pour moi, je donnerais un 8.5, 9 sur 10 pour sa performance, Marc-André.
Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Ça a été une de ses bonnes performances depuis qu'il était en Formule 1. La voiture, même s'il n'a pas pu la toucher avant vendredi dernier, on dirait qu'il la connaissait comme si, il avait passé tous les essais hivernaux avec elle. Puis, il semblait à l'aise. Malgré les circonstances, il a réussi à terminer sixième devant George Russell. Il est allé l'attaquer de front. Il a réussi à obtenir cette position. Puis c'est vraiment qu'à lui qu'on peut lui remettre ce mérite. Oui, la voiture était bonne, mais le reste, c'est lui qui a fait le travail. C'est lui qui est allé chercher les adversaires. C'est lui qui est allé chercher la bonne qualification, comme Anna-Maria l'a dit. Et on se dit toujours, si Lance réussit à avoir une bonne qualification, en course, il est capable. Il est capable de tenir des pilotes, de défendre sa position, d'attaquer pour aller en chercher d'autres. Donc, son seul problème que j'ai toujours mis de l'avant, c'est son problème à bien se qualifier et à ses performances sur un seul tour. Et là, maintenant que ça, c'est peut-être derrière lui, ben, on le souhaite du moins. Peut-être qu'on pourrait voir un nouveau Lance Stroll, surtout avec cette voiture qui semble aller de maître. Donc, à suivre pour le reste. Mais moi, je suis très encouragé par cette performance. Probablement que sa condition physique aussi va s'améliorer dans le temps. Donc, ça ne peut être que du succès, selon moi, dans les prochaines courses pour Lance.
Ouais. Anna-Maria?
Oui, c'est ça. Et je disais, Stroll a fait aussi une bonne performance, quelques petites erreurs que, au moins, j'ai dit, les petites touchettes avec Alonso, on dirait que c'est un porte-bonheur pour Alonso parce que la dernière fois qu'il l'a fait, il l'a mis dans les points avec le crash et cette fois-ci, Alonso a réussi à avoir son podium. Mais en général, l'équipe aussi, il a démontré qu'il prend ça au sérieux. Ils ont fait un bon travail, surtout les stratégies. J'étais surpris parce que dans la deuxième arrêt de Stroll, ils l'ont fait arrêter à l'avance. C'est là qu'il a gagné complètement la position à Russell. Ils l'ont fait rentrer à l'avance. Donc, quand Russell y a rentré, il y avait les pneus, il était froid, avec Stroll, il a eu le temps de réchauffer ce pneu et de trouver la vitesse pour le dépasser. Il faut dire qu'ils ont à peu près les mêmes moteurs, que c'est encourageant de voir les deux Aston Martin devant les deux chacun à son tour, les deux devant les deux Mercedes.
Ah, c'est clair. C'est parlant des Mercedes et de Ferrari en même temps. Mercedes, bon, je pense que c'était là où on s'attendait. On s'attendait à voir Mercedes à ses positions derrière les Aston Martin parce que en termes de race pace, c'était Aston Martin devant Mercedes. Mais c'est un bon résultat. C'est un bon résultat relatif dans les circonstances. Puis pour Ferrari, ben là, Sainz qui finit quatrième, mais Charles Leclerc qui doit abandonner sur problème mécanique, apparemment sur moteur. C'est pour Marc-André, pour Mercedes, ça va. Pour Ferrari, on doit, avec l'abandon de Leclerc, on doit certainement se gratter la tête.
Oh, on doit se pincer aussi. Pas encore. Ça allait. On espérait que cette saison ne soit pas qualifiée ou ne soit pas une mauvaise saison de fiabilité. Et ça commence très mal. Ça commence excessivement. Et une chance que Sainz a réussi à contenir Hamilton, parce que à un moment donné, il était à moins d'une seconde. Puis je me demande comment encore Hamilton n'a pas dépassé Sainz. À un moment donné, Hamilton a commencé à ralentir. Peut-être que ses pneus n'étaient pas en bonne condition. Il ne voulait pas l'attaquer justement pour que sa dégradation continue dans ce sens. Mais ça a été très mauvais pour Ferrari dans les circonstances. Position 3-4, termine avec seulement une quatrième position, Carlos Sainz. Je pense qu'il aurait espéré bien mieux, bien sûr, on s'entend tous. Mais là, il y a certainement un problème de fiabilité. Une batterie changée avant la course pour Charles Leclerc et un abandon durant la course. Je n'ai pas vu trop de détails concernant la condition du moteur de Leclerc, mais c'est déjà, on se souviendra qu'ils ont droit à deux seules batteries avant d'obtenir des pénalités. Là, il y en a déjà un de moins là, chez Ferrari. Donc, ça va être un casse-tête là, du côté de l'écurie italienne pour gérer tout ça. Est-ce que Carlos Sainz va avoir les mêmes problèmes aussi la semaine prochaine? Est-ce que Charles Leclerc va retrouver ses problèmes lors des prochains Grands Prix? Toutes ces questions vont être répondues plus tard, mais pour l'instant, c'est très, très inquiétant. En même temps, on peut regarder la situation de Red Bull l'an dernier. Double abandon pour des problèmes techniques et deviennent champion du monde quelques mois plus tard. Donc, c'est pas énervant. C'est le premier Grand Prix, mais c'est sûr que c'est inquiétant.
Ouais. Anna Maria?
Oui, moi, je commence pour Mercedes. Ils sont là, comme tu as dit, ils sont là où on s'attendait. Et je vois qu'ils ont beaucoup amélioré par rapport à l'année passée. L'année passée, il était un peu plus difficile. Il y avait aussi les problèmes de marsouinage. Et Hamilton, il y avait beaucoup de difficultés à s'adapter à la voiture. Et on voit que cette année, oui, lui, il y a une voiture plus docile. Et lui, Hamilton, il est confortable. Et quand lui est confortable, il est capable. Et on voit maintenant qu'il commence à être devant Russell. L'handicap de Mercedes, je pense que c'est aussi le problème de dégradation, qu'il ne peut pas tirer beaucoup parce que ils ont réglé le problème de marsouinage, mais la dégradation suit pour Red Bull. Ils pensent un peu plus le problème de dégradation, mais on sait que ben Red Bull, ils sont à l'avance, fait qu'ils peuvent gérer ça plus facilement. Pour eux, ils ont beaucoup de vitesse. Et Ferrari, déception, on peut dire, parce que oui, peut-être ils se sont dit qu'il y avait la vitesse, mais depuis hier, ils ont des problèmes, des morceaux qui se détachent, l'éclair, problème de batterie, il fallait changer. Là, il faut qu'ils règlent les problèmes, maintenant c'est un problème de fiabilité, ça a l'air que ça marche mieux, on n'a pas vu beaucoup d'erreurs dans l'équipe, mais il faut qu'il règle les problèmes de fiabilité. Et c'est là que je dis qu'Aston Martin doit profiter tant qu'il peut. S'il ne peut pas maintenir la cadence, parce que les autres, ils vont corriger ce qui ne marche pas. Et c'est là qu'ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à tenir. Et par rapport à Leclerc Sainz, je pense qu'on peut voir que Sainz est beaucoup plus technique pour piloter, et c'est là où Leclerc il pousse beaucoup, mais il faut qu'il y ait la fiabilité. Mm-hmm. Parce que Sainz, c'est l'équipe, il le disait à la radio de pousser plus. Si lui disait non, mais parce que si je pousse plus, je ne vais pas arriver. Et ça, c'est un pilote qui réfléchit, qui sait qu'est-ce qu'il y a. Il ne va pas pousser juste pour aller à l'avant s'il sait qu'il peut casser la voiture.
Mm-hmm. Effectivement. Et puis ça, c'est ce qui a peut-être coûté un podium à Ferrari, même si Alonso était tout feu, tout flamme. On va aller en arrière. McLaren et Esteban Ocon, une journée à oublier. McLaren, abandon de Oscar Piastri. Lando Norris qui finit dernier parmi les pilotes classés avec 2 tours de retard sur Verstappen. Et Esteban Ocon qui s'est pris 15 secondes de pénalité au total pour... Ben, d'abord un 5 pour ne pas s'être bien positionné sur la grille de départ. Ensuite, se prend 10 secondes de pénalité pour ne pas avoir bien servi
sa première
pénalité. Et il a été, je pense, il a été
pénalisé. 5 de plus. 5 de plus pour des vitesses.
Mais pour McLaren et Ocon, c'est une journée à oublier.
Complètement, c'est une journée, mais il peut la regarder juste pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais je pense que c'était pour rapport à McLaren, c'était une très mauvaise journée. Surtout pour Piastri, qui avait fait beaucoup de bruit dans les changements d'équipe, la chicane avec Alpine, et ça laisse comme une sensation de est-ce qu'il savait qu'est-ce qu'il faisait. Mais parce que Piastri, lui, est très bon, mais il y a des problèmes techniques, et lui aussi, il n'avait jamais roulé dans un Grand Prix. Oui, il a fait quelques tests, mais ça aussi fait un petit peu la différence. On voit que le problème, ce n'était pas juste Ricciardo.
Non, c'est pas...
Côté Alpine, bon début pour Gasly. Il a réussi à avoir ses points parce que Ocon, il s'est pris toutes les pénalités possibles pendant la course.
Pourtant, Ocon c'était bien qualifié, 9e.
Oui, c'est bien qualifié, on le voyait déjà bien devant Gasly, confortable, et finalement, c'est Gasly qui il prend les points.
Mais il y a quelque chose que je suis assez surpris qu'on n'ait pas eu la reprise de Ocon et pourquoi un bout de son aileron avant a été endommagé. Parce que oui, on pourrait savoir qu'il y a eu contact.
Il s'est touché, il y a un contact, c'est là qu'il était. Il est contact, il était comme la fille, il l'a mis la fille a investigué parce qu'il cherchait des coupables. Finalement, il a dit que non, qu'il y avait pas. Là, il n'était pas pénalisé.
Marc-André?
Oui, bien écoute, Alpine, ça a été, comme je disais tantôt, un peu coussi-coussa. Hein? Ocon qui part 9e, qui ne réussit pas à obtenir de points. Gasly qui part 20e et qui obtient des points. Disons que c'est assez ironique quand on passe à la situation, alors que Gasly avait vraiment eu beaucoup de misère hier, en terminant 17e, entre guillemets, mais s'est fait annuler son temps, donc il commençait 20e. Il a fait un bon Grand Prix, il s'est bien repris, et probablement que ses patrons doivent être très contents aujourd'hui des 2 points obtenus par Gasly avec cette performance, beaucoup moins du côté de Ocon, pour toutes les raisons qu'on a énumérées avant. Du côté de McLaren, c'est une suite de la débandade. On dirait que depuis l'an dernier, Lando Norris réussissait à faire quelque chose avec cette voiture. Visiblement, est-ce que c'est justement ça? Ricardo était seulement la victime d'une voiture qui ne faisait pas le travail, ou du moins qui faisait le travail pour un seul pilote. Puis encore aujourd'hui, on a bien vu le problème avec cette voiture. Piastri qui abandonne malheureusement en enlevant le volant, on dirait que le moteur a arrêté. Donc, impossibilité par la suite, de continuer. Du côté de Norris, ben, ça a été aussi une course sûrement très difficile mentalement. Commence 11e, se bat pour les points. Malheureusement, pour une suite d'événements, il dégringue là sur la grille et se ramasse vers les derniers. Donc, c'est très dommage pour Lando Norris. Va devoir se concentrer sur les prochains Grands Prix en sachant que sa voiture ne lui donne pas ce qu'il aimerait. Donc, ça, c'est très difficile pour un pilote qui a déjà connu le début, du moins le haut de la grille.
Et Anna-Marianne a glissé un mot. Pierre Gasly, qui était parti, s'est qualifié 17e, mais comme son tour a été supprimé, il est parti officiellement bon dernier, mais fini 9e avec 2 points. Et Valtteri Bottas, qu'on a vu quelques fois dans la retransmission, mais qui finit 8e. Outre les deux Aston Martin, moi, je pense que ces deux pilotes méritent leur part de performance du jour parce que ils ont été bons, ils ont livré la performance dont on s'attendait d'eux, mais ils ont juste été... Ils sont malheureusement dans l'ombre des deux voitures vertes.
Oui. Tu as complètement raison, surtout Bottas qui était un peu la petite roche dans les souliers de Mercedes parce qu'il a un peu roulé à l'avance et a tiré son stop plus tard. Il a un peu dérangé Hamilton, dérangé Russell. Et Bottas s'est quand même battu pour garder sa position, même si restait 8e. Il a fait beaucoup de travail. Il a fait beaucoup de travail et à l'avant avec des voitures qui étaient à nos de la grille.
Oui, effectivement. Marc-André?
Oui, exactement. C'est comme tu le disais, je pense que on ne peut pas mieux dire. C'est vraiment dans l'ombre de ces Aston Martin que Bottas et Gasly ont performé. Gasly sortait un peu de nulle part. À un moment donné, j'ai perdu un peu l'attention de la course. Il était rendu 11e. Puis là, je suis allé voir sur F1 TV pour comprendre si c'est parce qu'il avait pas rentré, mais non, il avait rentré au puits. Donc, tout le monde était sur le pied d'égalité et lui se ramassait 11e. Donc, une belle performance. Il va pouvoir construire aussi là-dessus, dans le sens où si cette aventure avec Alpine devait commencer avec une 20e position en qualification et disons une 18e position en course, ça aurait été vraiment terrible pour Pierre Gasly. Mais là, il peut se dire, mission accomplie. J'ai mal commencé, mais j'ai bien fini le dimanche. Et au fond, qu'est-ce qui est important? C'est le dimanche. Donc, c'est d'obtenir des points après la course qui est important. Donc, je pense qu'il va pouvoir construire, s'en aller en Arabie Saoudite, à Jeddah, en pleine confiance, en sachant qu'il est devant son coéquipier Esteban Ocon également, du moins après la première course.
Et n'oublions pas aussi, Williams, vraiment.
Oui.
Écoute, Alex Albon, 10e, et Logan Sargeant, 12e à son premier Grand Prix. Donc, la recrue la mieux placée des trois. Et vraiment, on l'a pas beaucoup vu dans la retransmission. Non.
Mm-hmm. Ouais.
Sargeant a fait un sans faute durant l'entièreté du week-end. Alors vraiment, c'est bon pour Williams, qui prouve que non seulement, pour ce premier Grand Prix de la saison, les espoirs étaient fondés de voir cette équipe se rapprocher du milieu de peloton, mais d'aller marquer un point de la première course de la saison, c'est déjà une victoire pour eux.
Et effectivement. Puis, vous savez, mon affection que j'ai pour Logan Sargeant, je me suis fait le plaisir de l'avoir sur mon F1 TV à quelques reprises durant la course sur mon écran. Puis, pour être franc, il a fait un très, très bon Grand Prix. Son travail a payé, c'est mérité. Un bon coup de volant, encore une fois. Il est allé chercher ses adversaires. Même à un moment donné, j'espérais un drapeau jaune ou un abandon qui crée un drapeau jaune pour qu'il reste 10e pour qu'il obtienne ses premiers points. Mais écoute, il a tellement été proche. il va pouvoir construire là-dessus. Et oui, Williams sont des candidats sérieux à être dans le milieu de peloton. Essayer d'avoir des points à quelques reprises cette année, pour moi, c'est pas une affirmation qui est grande et impossible à affirmer présentement. Là.
Oui, Anna-Maria?
Oui, c'est sûr. William il a beaucoup amélioré. Je pense qu'à la fin de l'année passée, il y avait déjà une voiture assez compétitive. Il réussissait à quand même à rentrer dans des bons chronos, d'avoir des points. Puis que cette année, ça commence bien. Au moins, ils ont déjà... C'est comme la première fois dans quelques années qu'ils ne sont pas les derniers à commencer. Ouais. Maintenant, c'est triste, mais on voit derrière McLaren, ça fait un peu mal. On se rappelle de McLaren 2015, on a déjà vu. Mais c'est quand même, William s'est amélioré, j'espère que ça va rester comme ça. Et c'est une équipe qui doit profiter au maximum quand il peut voler des points, quand il peut arracher des points. Et comme l'a dit Marc-André, ils vont chercher sa place au milieu des pelotons. Et pas la dernière, ça a été quand même bon. Et ben, Albon, c'est déjà Albon, ses performances ne sont pas si pires. Rien à dire avec William, même si j'ai critiqué tous ces mouvements qu'ils ont fait à la dernière minute, de changer son boss et tout ça, mais on dirait que ça marche.
Oui. Pour l'instant, ça va bien. Alors, vraiment, c'est une bonne chose de voir Williams plus compétitive que jamais. Maintenant, ça va être de voir si elle va être capable de suivre le pas sur l'ensemble de la saison. Alors, vraiment très impressionné par Williams. Par contre, je vais glisser un petit mot sur AlphaTauri et Haas. AlphaTauri, quand même, s'en est quand même bien sorti. Je regarde... Yuki Tsunoda qui était à un peu plus d'une seconde Albon et De Vries qui a et quand même qui a fait exactement ce dont il fallait. Alors ils se sont quand même battus en piste, surtout les deux AlphaTauri, mais Haas par contre
c'est comme j'ai pas vu.
Ouais, tu sais, justement, Marc-André m'a entendu dire le terme NPC, non-playable character.
Oui.
pour qu'il n'y ait pas Roméo.
Ah, ils sont comme disparus.
Ah, c'était exactement la même chose. C'était des témoins, mais c'était des témoins non, invisibles. À part le fait qu'on a vu Hülkenberg changer son aileron avant, mais à part ça... Ça a été assez difficile. Donc, rapidement, Timon, sur ces deux équipes.
Oui, c'est ça. Ben, AlphaTauri, on sait c'est quoi. C'est les petits frères de Red Bull. Ils sont là pour figurer, pour développer des pilotes. Si puis, ils vont aller à l'avance. Mais cette année, il y a de la compétition à l'avance parce qu'ils restent derrière. Mais Haas c'est pas, on dirait que l'année passée, ils ont fait une bonne voiture et ils parlaient de beaucoup d'investissements de côté russe qui après, on sait pour les raisons qu'ils ont données qu'ils n'aient pas pu rester dans l'F1. Mais on dirait que cette année, ils ont allé à l'arrière. On compte pas développer la voiture parce que je suis surprise aussi pour la performance de Magnussen. Et l'année passée, il y avait de l'espoir, il allait chercher les points, on était impressionnés. Et cette année, même Hülkenberg s'y était allé un bon qualif. Côté performance dans la course, je pense pas que c'est la faute des pilotes. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans Haas.
Marc-André, on va te laisser la parole pour parler de Formule 2 et de Formule 3 parce que tu as regardé ça avec attention cette fin de semaine.
Oui, en fin de semaine, je me suis donné la mission de regarder ça avec attention, puis pour vrai, ça a vraiment bien tombé. Bon, moi, je vais commencer par la course peut-être de ce matin. Théo Pourchaire, qui a fait un peu un Max Verstappen de lui-même, là, a dominé cette course du début jusqu'à la fin, n'a jamais été inquiété par ses adversaires. Heureusement qu'il y a eu un bon départ parce que rapidement, il y a eu quelques accrochages là, entre Vesti, entre plusieurs pilotes là, qui ont créé un peu un raz-de-marée à l'arrière. Là. Donc, Vesti qui a entré en contact avec Virchow, ça a créé un petit peu un raz-de-marée, comme je l'ai dit tantôt, avec Stanley qui a dû abandonner également. Et puis, plusieurs pilotes en ont profité, dont Ralph Bochung, qui avait gagné sa première course en 95 Grand Prix le jour d'avant, a terminé deuxième derrière Théo Pourchaire. Extraordinaire fin de semaine pour lui. Après beaucoup de travail, là, enfin les résultats payent de son côté. J'imagine qu'il a passé une extraordinaire fin de semaine de son côté. Martins aussi, malheureusement, lui a été victime de l'accident, mais avait réussi à se qualifier de manière d'une très bonne position. Là, commençait deuxième derrière Théo Pourchaire à son premier Grand Prix en F2 après avoir été sacré champion en Formule 3. Lui aussi là, ressortait du lot. Malheureusement, son aventure ne s'est pas terminée comme il le souhaitait. Le petit frère de Charles, Arthur, a terminé sixième dans la course de dimanche. Donc, de bons résultats en F2, de bonnes courses. Dennis Hager a été plus subtil. Lui aussi a été victime là, de cet accident lors de dimanche, mais a fait une course sensationnelle, une course sprint samedi qui l'a projeté là, jusqu'à la deuxième position. Donc, beaucoup de belles choses. Et j'ai aussi de mentionner aussi l'extraordinaire performance de Zane Maloney qui partait ni plus ni moins de la 18e position, qui a profité un peu de tous les accidents pour se propulser jusqu'à son podium. Premier podium pour lui en carrière en F2, lui qui était une recrue cette année. Ouais. Fait que pour une première fin de semaine, là, je dirais que ça a été une bonne fin de semaine de F2, plusieurs bons résultats de part et d'autre, mais le spectacle aurait pu être plus animé là, si Dennis Hager, Vesti et Victor Martins avaient réussi à poursuivre la course. Là.
Ouais, et j'ai hâte de voir. C'est quand la prochaine course?
La prochaine course va avoir lieu à Jeddah. Tout le monde s'amène à Jeddah lors du prochain Grand Prix. Okay. Donc, ça aussi, ça va être excitant. C'est pas le meilleur circuit, mais la rapidité de certains pilotes pourrait faire en sorte que le spectacle soit assez enlevant là, du côté de la Formule 2. Sinon, si on se... Parlant de F3, justement, Gabriel Bortello, qui est visiblement le petit poulain de Alonso, a réussi à obtenir sa victoire en F3 devant Oliver Gotthard et Dino Beganovic. Donc, voici le top 3 là, en F3. Et puis, à mentionner aussi que le fils de Juan Pablo Montoya, donc Sébastien, a terminé 9e dans sa high-tech dans cette course que je n'ai pas regardée malheureusement.
Et tu sais, Oliver Goethe a un lien de parenté avec... son père est un ancien pilote de course qui participe à la GT World Challenge Europe Sprint Cup, mais il a aussi des liens de parenté avec le célèbre auteur allemand Goethe ou Johann Wolfgang von Goethe, qui est l'auteur du livre Faust, donc que j'ai adoré lorsque j'ai fait mes études en littérature au Cégep. Oui, j'ai une petite tranche de vie, j'ai fait des études en littérature et j'ai lu du Goethe et j'ai adoré. Donc, ça va être... avec Sébastien Montoya, Oliver Goethe va être mon pilote que je vais surveiller au cours de la saison.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est quand la prochaine course de Formule 3, Marc-André? Je
crois que... Marc-André, il n'est pas là. Oui, il cherche...
Je crois, Je crois qu'on l'a perdu pour présentement, mais en attendant, la prochaine épreuve sera nul autre qu'à Albert Park le 1er et 2 avril. Alors, oui, la formule de s'amène en Australie pour la toute première fois. Donc la Formule 3, la prochaine étape, aura lieu Down Under. Alors, c'est ce qui complète cette émission d'après-course du bulletin GP. Donc, comme je l'ai dit un peu, on va voir notre émission globale. Le deuxième épisode, on va parler d'IndyCar parce que la saison a débuté ce dimanche. On ne va pas vous dire qui a gagné parce qu'on regarde la course en ce moment. Mais on va en parler jeudi durant l'épisode. Donc, vous pouvez nous suivre sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et autres. On est aussi sur Facebook, Twitter et Instagram, @lebulletingp. Et on vous invite à aller sur Facebook pour le groupe Facebook La Monoplace. Et surveiller aussi les réseaux sociaux parce qu'on a aussi notre pool F1 et je vais mettre les résultats. Ça, c'est ma promesse. Après chaque Grand Prix, je mettrai le résultat sur les réseaux sociaux pour voir qui a fait mieux ou si je vais encore me faire planter, comme ça a été souvent le cas. Alors, Marc-André Fortin, je le remercie. Malheureusement, il y a eu des problèmes techniques, donc je le remercie. Et Anna Maria, merci beaucoup d'être venue nous parler pour la première fois dans cette émission d'après-course.
Ben, merci à toi. J'ai eu la chance. J'ai dit pourquoi pas une première fois et après, on va voir.
Peut-être pas ce sera peut-être pas la dernière fois.
Non, ça, c'est sûr que c'est pas la dernière.
Alors, mais on sera de retour jeudi pour l'émission spéciale d'IndyCar. Mon nom est Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve jeudi pour l'émission numéro 2 de la saison 5 et dans 2 semaines pour la pré-course du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Salut tout le monde!